Avez-vous d'autres questions qui étaient programmées? Non? Bon, on a le temps à des questions directes, si vous voulez. Ou alors, si vous êtes, entre guillemets, parfaitement satisfait de vos connaissances, on en reste là. Oui? Non, ne vous adressez pas nominativement aux gens. Commencez pas.
Hein. Bah, voilà, pardon. Pardon, l'équipe. Voilà, je voulais parler de la rééducation.
Ah bah, c'est pas à moi qu'il faut s'adresser. Vous avez des spécialistes
non,
en face de vous.
Je voulais signaler le problème de kiné particulier. Ils savent pas travailler sur les gens qui ont la sclérose en plaques. Sincèrement, la seule fois où j'ai été bien prise en charge, enfin pas la seule fois, j'ai eu droit à deux fois grâce au docteur Deban. Là, les kinés travaillent réellement sur les jambes. Je vais chez les kinés. Alors là, ils sont gagnants avec moi. Une fois, deux fois après, ils vous massent. Une kiné qui me dit, qu'est-ce que je dois vous faire? Je l'ai regardé d'un air, qu'est-ce que vous me faites? Elle fait, oui, parce que vous savez pas, madame, elle m'a cité. J'ai dit, mais attendez, vous avez fait une formation. Gentiment, hein, tout en restant poli. Donc, après, je pars. Au bout de 3-4 fois, je désespère et j'atterris à l'européen. Voilà.
Pas de publicité.
Non, c'est réel. J'aurais aimé qu'il y ait de la rééducation, c'est à la Timone. Pourquoi on n'a pas la rééducation au sein de la Timone?
Pardon?
À la Timone, pourquoi on n'a pas un centre
alors,
de rééducation?
Il y a la rééducation quand même. Quand vous êtes hospitalisé, les personnes qui sont hospitalisées, par exemple, pour un problème vasculaire ou pour une poussée très, très importante, on a une kinésithérapeute qui intervient à l'étage pour les premières rééducations avant d'orienter vers des centres.
Ah, d'accord.
Après, c'est vrai que pour de la rééducation au long cours, ça ne peut pas être assuré.
Voilà, parce que là, c'est un peu vraiment... J'ai pas essayé un ou deux kinés en privé. J'ai de l'expérience. Après,
C'est variable, mais on trouve quand même des kinés qui sont formés à la neurologie. Il y a quand même des kinés qui sont formés à la neurologie en ville et qui s'investissent.
Bien sûr.
Mais c'est vrai qu'il faut pas tous les kinés.
Comme dans tous les domaines, il y a de bons et de mauvais.
Il y a des kinés, mais qui sont loin de chez moi. J'ai pas envie de donner de détails précis, mais elle a compris, docteur Deban, de quoi je parle. Voilà.
Après, moi, j'ai beaucoup de retours positifs aussi de patients.
Vous répondre si vous voulez.
Oui.
Oui, vous avez donné votre réponse en même temps que votre question. Donc, c'est comme tout, c'est comme les fruits, il faut en choisir plusieurs pour en trouver un bon. Et le jour où vous commencerez à faire des progrès avec un thérapeute, vous continuerez à y aller avec plaisir et vous ferez des progrès avec. C'est vrai que tous les professionnels de santé sont plus ou moins orientés vers une activité. C'est vrai que la sclérose en plaques, on demande peut-être une orientation particulière, mais déjà, tout kinésithérapeute peut traiter une personne atteinte de sclérose en plaques. Après, il y a un travail qui doit être effectué entre vous et le professionnel et qui vous fasse progresser et que vous vous sentiez bien. Et puis, si vous ne vous sentez pas bien, il vaut mieux aller ailleurs parce que vous perdrez de votre temps et puis peut-être lui aussi. Et... il y a une question de choix, il y a une question d'affect.
Non, mais moi, ce qui me fait de la peine, c'est qu'ils encaissent l'ordonnance sur la sécu. Franchement, c'est...
tout le monde encaisse, mais après, il faut être bien soigné.
Voilà, j'espère.
Après, il faut être conscient quand même qu'on ne peut pas faire au cours d'une séance de kiné la même chose que ce qu'on va faire en une demi-journée dans une structure avec un centre, avec une balnéo, etc. Donc, ce n'est pas le même travail non plus. C'est complémentaire. Après,
excusez-moi. Moi, je pense vraiment que la kiné libérale, elle a toute sa place dans la prise en charge de maladies chroniques comme la sclérose en plaques. Donc, c'est vrai que ce que dit Mme Rico, on ne peut pas comparer, et souvent les patients comparent la rééducation qu'ils vont avoir en centre et la rééducation en libérale. Alors, effectivement, il y a des kinés libéraux qui ont plus ou moins d'affinité et de compétences en neurologie, mais ça, effectivement, il faut peut-être un petit peu chercher et garder le kiné quand on l'a trouvé, mais il ne faut pas attendre, et ce n'est pas les mêmes objectifs. Moi, quand je vois des patients pour des séjours en rééducation, on fixe vraiment des objectifs qui sont des objectifs précis, qui demandent cette rééducation intensive et un peu plus, peut-être un peu plus spécialisée et pluridisciplinaire. Mais la place du kiné libéral dans l'entretien, elle est essentielle, et je crois qu'il ne faut pas chercher à comparer. Et on ne peut pas faire toute sa vie des séances de rééducation au centre, on s'épuiserait aussi. Ce n'est pas, c'est pas l'objectif.
Oui, effectivement, il y a, en rééducation, il y a le kiné de ville. Il y a, on va consulter en kinésithérapie en fonction du type d'handicap. Donc, tant que vous pouvez marcher, tant que vous pouvez aller dans un cabinet, il vaut mieux aller au cabinet parce que souvent, les confrères sont bien équipés. Personnellement, je ne fais que du domicile, c'est-à-dire que je n'accepte que les cas lourds qui ne peuvent plus aller en cabinet. Je ne suis plus du tout non plus dans le même niveau d'handicap. Donc, je me suis orienté vers la sclérose en plaques, je fais partie du réseau, je suis concerné par le problème. Donc, il y a une complémentarité, si vous voulez, entre la kinésithérapie de ville, qu'on fait soit en cabinet, soit en domicile. Il y a une complémentarité avec les centres de rééducation qui sont très importants parce qu'il y a un plateau technique important. Vous allez être pris en charge par toute une équipe qui n'est pas seulement les kinés, il y a les médecins, il y a les psychologues, ils ont des plateaux différents, de techniques différentes. Il peut y avoir des piscines, il peut y avoir différentes choses. Vous allez avoir, par exemple, vous êtes pris en charge pendant toute la journée, mais ça va durer un mois. Après, le kiné de ville, vous allez le voir tous les jours, il va vous connaître et il va vous faire progresser. Ensuite, les centres thermaux où vous allez pouvoir faire une cure une fois par an. Il y a des centres des thermaux spécialisés, tels qu'à La Malou, où vous allez rencontrer des médecins thermaux, des kinés, des psychologues, etc. Tout ça, c'est complémentaire et le but, c'est de vous faire progresser. Si vous allez faire une rééducation, par exemple, à La Malou, ce n'est pas simplement le centre thermal qui est important, c'est aussi le climat qui est différent, qui a prouvé son efficacité. C'est toute une équipe. Il n'y a pas de miracle. L'équipe, c'est les thérapeutes, mais c'est avec vous. Et c'est complémentaire. Nous, on est là pour vous aider. Et notre but, c'est notre contentement, c'est que vous alliez mieux. Et vous êtes aussi contente de nous. Sinon, vous avez le libre choix de votre thérapeute. De rien.
D'autres questions? Ah, je ne vous avais pas encore entendu.
Oui, non, mais c'est simplement une question simple. Tout le temps, on parle de la spasticité quand si une personne prend justement, j'allais dire, du CBD, du Sativex, on va dire. Hein? Mais je regardais récemment encore un document sur Arte qui parlait des différents pays européens où il y avait pas du Sativex, mais qui avait justement du THC thérapeutique et qui disait que même pour le côlon, ça pouvait marcher, que ça améliorait.
Même pour le
côlon.
Le côlon.
Oui, alors ce qu'on ne s'y attend pas. Et la personne avait une scale en plaque, hein, je parle. Hein. Donc, elle était même elle-même étonnée parce qu'elle disait que, bon, effectivement, elle dormait mieux, qu'elle avait moins d'espacité, ça c'est clair. Mais c'est vrai qu'elle disait aussi que c'était sous différentes formes. Certaines fois, elle fumait, certaines fois, elle buvait. Et là, dans ce cas-là, c'était, elle mangeait des gâteaux de fée à sa façon. Je ne sais pas comment elle les faisait. Puis c'était elle parlait à partir de la tchéquie.
À partir de
la tchéquie. Ce qui était avant la
Tchécoslovaquie. Ouais. Ça s'appelle la République tchèque.
Voilà. Si on veut, ouais. Exactement. Je ne connais pas si bien. Voilà, c'est tout.
Merci de votre témoignage. Mais la spasticité, quand vous dites la spasticité, ça sous-entend, parce que c'est toujours un petit peu ce qui est sous-entendu, c'est la spasticité au niveau de la motricité des membres inférieurs, de la raideur, de la douleur, etc. Mais la spasticité, elle touche d'autres organes, la vessie, le côlon dans une certaine mesure. Donc un médicament qui marche sur la spasticité motrice peut aussi améliorer un certain nombre de symptômes. Le cannabis a montré des améliorations sur le fonctionnement urinaire. Donc, la spasticité, c'est pas que le muscle, la raideur des jambes. Voilà. Et vous avez raison. Alors, sur le gâteau, il n'y a pas beaucoup d'études. Et il faut écouter. On est dans la pratique, la vraie pratique, la vraie vie. Les personnes consomment du cannabis, et notamment dans cette situation de sclérose en plaques où il y a des douleurs, de la spasticité, voire d'autres symptômes dont on sait qu'ils pourraient être ou qu'ils ont été démontrés comme étant sensibles au cannabis. Le retour qu'on en a, c'est que le joint fonctionne très bien. C'est probablement ce qui fonctionne le mieux en termes d'efficacité. Le Sativex, pour l'instant, ce sont des études. On verra ce que ça donne dans la vraie vie lorsque les gens l'utiliseront en dehors des phases de protocole où tout est carré, surveillé, paramétré. Et par contre, toutes les dérivées du cannabis, infusion, gâteau, etc., moi, j'ai des retours plutôt négatifs. Enfin, négatifs au sens inefficace. Alors, je ne suis pas en train de promouvoir le joint versus le gâteau. Et, oh, tu peux m'enregistrer, je ne reste plus rien maintenant, tu sais. Non, mais il y a bien longtemps qu'on sait par les patients que le cannabis fonctionne sur la spasticité, sur les douleurs, voire sur les troubles urinaires. Mais c'est des retours de vraie vie de personnes qui l'utilisent pour cette raison-là et pas pour des raisons de toxicomanie.
Je croyais qu'on parlait que des jambes. Et effectivement, on ne sait pas que des jambes. Très bien.
En plus, ça a l'avantage d'être trouvable partout, si j'ai bien compris, et facilement.
Bon, après, dans les produits de consommation courante, on va dire entre guillemets, par contre, il y a des extraits multiples de cannabis dont certains ont des effets psychotropes plus importants, qui peuvent entraîner une somnolence, un ralentissement des fonctions cognitives, voire des idées paranoïaques ou des idées délirantes. Donc, il faut quand même être prudent. Et c'est vrai qu'on dans les produits pharmaceutiques, il y a quand même un tri, une sélection des extraits de cannabis pour qu'il y ait un effet périphérique et pas sur le cerveau pour limiter justement ce danger. Donc c'est vrai qu'il faut quand même être aussi prudent. On peut pas...
Danger qui existe aussi avec les produits naturels du fait de leurs différentes coupes et recoupes. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc soyez... Attends, je suis pas en train de promouvoir le cannabis, mais si vous le faites, soyez...
Et par exemple,
prudent.
Très prudent. Parce que j'ai entendu dire que des fois, il y avait des épilepsies qui démarraient après une fumette, quoi. Et est-ce que dans ces cas-là, ce que vous venez de dire, ça peut aussi déclencher une poussée ou une apparition de la CEP?
Une apparition, non, une poussée. Après, on ne sait pas ce qu'il y a dans les résines, ils mettent n'importe quoi. Hein. Donc, c'est coupé avec on ne sait pas quoi. Après, on ne sait pas ce qu'on prend. Hein.
Les produits toxiques
effectivement,
régulièrement utilisés, comme le cannabis, l'héroïne et la cocaïne, sont des pourvoyeurs d'accidents vasculaires cérébraux impressionnants.
Et donc, ça.
Mais est-ce que c'est lié aux produits? Oui, probablement, parce que sur des consommations fortes, on sait qu'il y a des mécanismes qui sont démontrés, mais aussi. Qui est associé à ces produits une fois qu'ils ont été travaillés, retravaillés, coupés, recoupés avant la revente. Donc il y a probablement des produits toxiques qui sont mélangés à ces. Et puis les personnes qui prennent ce genre de produits dits illicites font parfois de la consommation multiple. Donc attribuer à tel produit une réalité sur une maladie, c'est compliqué. Dans la sclérose en plaques, non.
Non.
Encore une fois, on ne fait pas l'apanage de ce traitement, entre guillemets. Hein.
C'est vrai qu'on espère que la législation va augmenter. Ça veut dire que ce soit encadré et que justement, il n'y ait pas tous ces problèmes-là. Parce que...
Ce qui a été démontré dans les études avec ce produit, donc le Sativex dans la sclérose en plaques, c'est qu'il n'y avait pas de risque d'accoutumance et de dépendance, y compris à forte dose, entre guillemets. C'est un produit qui s'utilise en spray buccal et la moyenne d'utilisation, c'était 7 fois par jour, mais certains ou certaines personnes en prenaient jusqu'à 20 ou 30 fois par jour. Et il n'y a pas eu, a priori, ces études sont très contrôlées, surveillées, hein. Donc il n'y a pas eu de manifestations pouvant faire penser à des phénomènes d'accoutumance ou de dépendance.
Excusez-moi, dans le cadre du THC, enfin du cannabis, c'est pas la même molécule, je crois.
Non. C'est un produit dérivé.
Le THC, le CBD, quoi.
C'est un produit dérivé. Voilà. Mais qui est bien connu et bien encadré. Alors, pourquoi ça marche bien? Très probablement par rapport. Parce qu'il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites avec des dérivés du cannabis par voie orale, qui n'ont jamais donné de résultats très, très intéressants. Probablement parce que ces produits en spray vont chinter l'estomac. Donc il y a moins de déperdition d'effets, entre guillemets, pharmacologiques de ce type de médicaments. Et surtout, ils agissent très vite. Par contre, ils n'agissent pas longtemps. Hein, une bouffée de cannabis, ce n'est pas une action qui va durer 4 heures. De cannabis, de Sativex. C'est un produit qui va agir pendant une demi-heure, une heure, parfois un peu plus. Donc à des moments stratégiques où les gens sont très spastiques, raides, douloureux, ça peut être très intéressant pour passer un cap ou avant d'aller chez le kiné, par exemple. ça peut être des moments particuliers où le traitement va être efficace pour faire certaines fonctions. Bon, écoutez, s'il n'y a plus de questions, d'abord, on vous remercie. Moi, je voudrais surtout remercier les personnes qui, chaque année, prennent de leur temps, sur leur famille notamment, pour venir faire de l'information médicale et non médicale, d'ailleurs, dans la sclérose en plaques, depuis 15 ans. Donc, remercier surtout aussi Madame Bernadette Dilelio, qui s'occupe de tout depuis 15 ans, et ça marche toujours très bien. Et remercier les industriels qui nous aident à organiser cette réunion, parce que 4 heures, c'est pas très long, mais ça coûte très cher, en tout cas ici. J'espère qu'il n'y a pas de micro. Mais... Ah, ça coûte cher quand même, hein. On est d'accord ?
Ah oui.
Mais c'est pas de votre fête, hein. C'est, voilà. Donc le réseau PACACEP, n'ayant pas de grands moyens, on est aidé. Je voulais remercier... Bayer, Biogène, Merck, Novartis, Roche, Sanofi, Teva et Wellspect, qui sont des les laboratoires dont vous avez vu les produits qui sont affichés, c'est-à-dire des médicaments qui sont utilisés dans cette maladie, pour certains depuis 20 ans, en vous rappelant bien qu'il n'y a aucun conflit d'intérêt entre le fait qu'ils puissent nous aider à louer la salle et on n'est pas influencé pour parler des traitements. D'accord ? Comment ? Nous, on dit pas de conflit d'intérêts. Le lobbying, peut-être que tout industriel en fait du lobbying, parce qu'il essaie de positionner son produit pour qu'il soit utilisé, puisque c'est un retour sur investissement et sur argent, avec des médicaments, la grande majorité de vous le savent, hein, dans cette maladie, qui émarge entre 1 000 et 2 000 euros par mois. Donc l'année de traitement dans la sclérose en plaques, c'est entre 20 et 25 000 euros sur les traitements de fonds, voire l'association de plusieurs médicaments. Vous avez entendu qu'on les commence très tôt parce que c'est là où la cible est la meilleure pour verrouiller la maladie, ce qui se comprend bien parce que si on attend qu'une maladie bouge, on a plus de mal à revenir en arrière que d'arrêter un système qui est en marche vers l'avant. Donc si on commence ce traitement à 25 ans et que ces traitements à 25 ans et qu'on les poursuit pendant, surpris que personne nous ait posé la question, parce qu'en général on a toujours cette question, c'est est-ce qu'on les poursuit toute la vie ou est-ce qu'on les arrête? On n'a pas de réponse pour l'instant sans individuel qui permette de dire pour cette personne-là, il ne faut pas l'arrêter, ou pour cette personne-là, il faut le continuer. Ce qu'on commence à faire dans certaines situations, souvent à la demande des patients d'ailleurs, ou des patientes, c'est après un certain temps de traitement, parce qu'il commence à y avoir un petit peu, comment dire, une lassitude, grande lassitude. Effectivement, parfois, on peut être amené, dans certaines situations, hein, à interrompre le traitement sous surveillance très attentive, notamment de l'IRM, pour vérifier que lorsque le traitement s'est évacué en termes d'efficacité, on ne voit pas réapparaître quelque chose qui nous fasse dire la maladie va repartir très vite et pas attendre qu'elle reparte d'un point de vue clinique avec des poussées et du handicap. Et pour certaines personnes, c'est vrai qu'il semblerait que le cap puisse être passé. Donc, j'ai eu il y a quelques temps quelqu'un qui a arrêté son traitement, qui était un traitement de première ligne dans une maladie calme, plutôt calme et pas agressive, depuis 10 ans. Qui va bien, avec une IRM qui ne bouge pas et pas de nouveaux symptômes. Mais attention, sous surveillance. Pour l'instant, c'est traitement long cours. Donc si vous partez pour 10, 20 ans, hein, certaines personnes sont traitées depuis 20 ans avec les premiers traitements immunomodulateurs, les deuxièmes lignes comme le natalizumab depuis 2007, donc on a passé les 10 ans, eh bien 25 000 multiplié par 10, ça fait 250 000 euros par personne en termes de frais... liée à la sécurité sociale, juste pour un médicament. Voilà, donc je les remercie en sachant qu'il n'y a pas de conflit d'intérêts et qu'on n'est pas influencé par le fait qu'ils puissent nous aider à organiser cette réunion, mais s'ils n'étaient pas là, peut-être qu'on ne pourrait pas la faire, en tout cas ici, sûrement. Bon après-midi et bon week-end.
Merci beaucoup.